Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette saison, nous accueillons des musiciennes de la nouvelle génération que Sophie va interroger.
Bonjour, c'est Sophie Rosemont et aujourd'hui, j'accueille Chila. Chila pour chill, Chila pour le rap français, ce qu'il a de plus dynamique, audacieux, affirmé aujourd'hui. Un premier album qui s'appelle Moon, qui est sorti il y a quelques mois et qui tourne encore très fort sur nos platines. Chila vient de Lyon, mais elle parle à tout le monde, en France et même ailleurs. On va revenir toutes les deux sur un souvenir partagé. La première fois qu'on s'est croisés, Chila, c'était à Sciences Po. C'était lors d'une table ronde où on devait débattre de la place de la femme au sein de l'industrie de la musique. C'était assez intéressant. D'ailleurs, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même très peu de directrices de label, par exemple. Tu avais un discours très construit autour d'un féminisme et surtout un féministe très universaliste. Et d'ailleurs, tu parlais aussi d'humanité avant tout, d'égalité. Comment tu te positionnes aujourd'hui, maintenant qu'un premier album est sorti, que tu as pris tes marques, que tu as donné des concerts et là, c'est interrompu par la pandémie? Comment tu te vis là, aujourd'hui, juste comme une femme au sein de cette industrie qui est celle de la musique?
Plutôt comme une femme qui, malheureusement, n'a pas l'opportunité de pouvoir vivre de son art comme elle l'aimerait. On est un peu tous dans la même situation de frustration. Au sein de l'industrie de la musique, je reste quand même privilégiée, j'ai l'impression, parce que j'ai eu un accueil vraiment top sur mon album. Les gens ont été très bienveillants. Mon public a été au rendez-vous. Quand on pouvait encore faire des concerts et tourner, j'ai eu la chance de les revoir, de les rencontrer pour certains. Ça a été vraiment des moments d'union forts où je me suis rendu compte que ma musique, voilà, parlait aux gens, qu'elle leur créait des émotions et que ça m'en créait d'autant plus de la partager en direct avec eux. Je reste toujours un peu dans le même état d'esprit de, voilà, de défendre mes valeurs, mon identité, avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire l'écriture, la musicalité. Et voilà, en tant que femme, de voir des jeunes, leurs parents, des personnes un peu plus âgées, des hommes, des femmes, ben, ça m'a vraiment convaincue sur le fait que c'était ça qui me faisait vibrer et que finalement, la musique, voilà, elle avait pas d'identité particulière, que c'était quelque chose de non palpable, en fait, cette énergie qui nous lie et qui nous donne encore de l'espoir quoi pour la suite. Et du coup, ben, c'est ce qui me donne la force encore aujourd'hui de créer et d'avoir cette envie de nouveau d'apaiser un peu les cœurs.
Et tu parles de jeunesse, et ce qui me fait penser à ta chanson « Premier jour d'école », « Comment grandir si je ne connais pas les codes ?» Comment tu as grandi, toi, justement ?
Ben, j'ai grandi dans un contexte particulièrement top, en fait. C'est vrai qu'on a tous notre bagage émotionnel, nos névroses, notre histoire qui a ses hauts et ses bas. Mais je crois que j'ai eu la chance quand même de vivre au sein d'une famille où il y avait, enfin, où le mot d'ordre, en fait, c'était l'amour, le partage, l'écoute, la prise en compte de l'autre aussi. J'ai grandi, moi, en province, en fait. J'ai grandi à la frontière de Genève. Ensuite, je suis partie faire mes études à Annecy, puis j'ai fini à Lyon, là où j'ai commencé vraiment à découvrir mes responsabilités, à découvrir mon envie d'affirmer mon caractère à travers mes textes, à travers ma musique, où j'ai pris mon indépendance. Bah, j'ai eu la chance d'avoir des parents, en tout cas, qui étaient à l'écoute de ça, qui étaient un peu inquiets au début, mais qui finalement m'ont vraiment soutenue. Et je dirais surtout ma mère, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, mais lui était musicien. Donc, ça paraissait évident que je suive un peu les traces de mon père. Mais ma mère, en tout cas, a toujours su porter sa famille, nous soutenir. Et voilà, pour une femme seule, éduquer deux enfants dans les conditions que sont la mort qui plane au-dessus de nous, ben finalement, pour moi, tout ça, ça a été une force. C'est-à-dire que dans les échecs que j'ai pu traverser pendant ma jeunesse, dans les déceptions, dans les tragédies, ben c'est ce qui m'a forgé, permis d'apprendre des leçons, de grandir et de m'affirmer envers et contre tout. Ouais.
Ce qui m'amène à cette formule de Gloria Steinem, sur laquelle je fais revenir toutes les invitées d'écouter les filles, c'est « La liberté vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage ». Qu'est-ce que ça fait résonner en toi ?
Ça résonne en moi comme une évidence parce que je pense que si j'avais pas cette rage, si j'avais pas eu ces moments de colère, ces moments de tristesse, je connaîtrais certainement pas la valeur de la joie, du bonheur, de l'épanouissement et de l'apaisement. Maintenant, je pense que c'est en vrai le chemin évident d'une vie, en fait. C'est que on aspire toujours à être heureux. Enfin, et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de constante dans la vie, que c'est un cycle sans fin de va et de vient entre justement la rage, la paix, l'amour, la tristesse, la joie, la peine. Et finalement, moi, c'est ce qui me donne l'envie à chaque fois de me dépasser, en tout cas.
Et quelle est ta plus grande peur ?
Ma plus grande peur, c'est la perte et l'abandon. C'est de ne pas être à la hauteur, c'est de décevoir. Donc en fait, mon combat tous les jours, c'est toujours d'être meilleur que la veille. Je pense que j'ai plus peur des choses que je connais pas que des événements que j'ai déjà traversés. Par exemple, la maladie, c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai vu les conséquences tragiques, les douleurs que ça inflige. Mais finalement, vu que ça m'est familier, je sais plus ou moins à quoi m'attendre en termes d'intensité émotionnelle. Après, l'abandon, la perte, c'est quelque chose qui revient beaucoup parce que même si on a déjà connu l'abandon ou la perte, finalement, chaque personne autour de moi est tellement unique et fait tellement partie de mon écosystème et a tellement une importance que j'ai toujours peur d'être déséquilibrée et déstabilisée si quelqu'un venait à me quitter.
Et c'est ce que tu combats quelque part dans tes chansons qui sont assez cathartiques, hein. Tu parles aussi beaucoup de ça.
Ouais, bah ça me permet de rester lucide. Ça me permet d'essayer de traiter ces névroses aussi. Et ça me permet finalement d'être proche aussi de mes peurs. Ouais, si j'avais pas la musique, clairement, je pense que je serais sans cesse en train d'intellectualiser tout ça sans vraiment trouver une issue à ces émotions. Alors que là, j'arrive à chaque fois à les traiter grâce à la musique. C'est ce qui me permet de me sentir libérée en tout cas et de les verbaliser.
Et dans le cadre de ta musique, tu es beaucoup entouré d'hommes qui sont tes complices, manifestement, et que tu te présentes comme tel. Quel est ton rapport à l'homme, à la fois dans l'industrie de la musique et à la fois dans ta vie personnelle, depuis ta notoriété ?
J'ai besoin des hommes comme j'ai besoin des femmes. Enfin, j'ai besoin d'être bienveillant autour de moi. Pour moi, le sexe, il n'a pas d'importance à partir du moment où je suis face à des personnes avec qui je me sens connectée et alignée en termes d'énergie et de vision et de philosophie. Que ça soit mon producteur, mon DJ, mes potes, c'est des gens qui sont de nouveau essentiels à mon écosystème et qui me permettent aussi de me sentir en équilibre. En tout cas, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais des copines, mais j'avais plus de difficultés. Enfin, c'est très cliché ce que je vais dire, hein, mais j'avais plus de difficultés à cerner les intentions des femmes. Parce que, on sait très bien, dans une cour de récré, etc., il y a pas mal de compétitions entre les jeunes filles. Donc, moi, c'est quelque chose que je vivais très mal, parce que j'ai jamais eu cet état d'esprit. Et du coup, moi, je préférais traîner avec les garçons parce que je sentais pas de rivalité, en fait. Je ressentais pas d'animosité vis-à-vis de moi. La difficulté avec les hommes, c'est que moi, j'avais tendance à masquer ma féminité pour être sûre de ne pas envoyer les mauvais signaux. J'étais dans une démarche d'être sûre de ne jamais être dans la séduction, de ne jamais être trop légère dans mes relations pour éviter que ça soit interprété de la mauvaise manière. Et du coup, j'avais tendance à beaucoup me masculiniser pour me mettre au même niveau qu'eux. Mais c'était pas quelque chose que je sentais de leur part, en fait. C'est pas eux qui me faisaient ressentir ça. C'était juste moi avec moi-même, finalement. Je pense la découverte, justement, de ma féminité, tout ça, ça a pris un peu plus de temps. Ça a été mon petit point sensible jusqu'à même récemment. Hein. C'était vraiment cette notion de j'ai besoin qu'on me reconnaisse pour ce que je suis, pour mon caractère, ma personnalité. J'avais pas envie qu'on me sexualise ou qu'on interprète mon comportement comme de la séduction. Après, ça dépend avec qui, bien sûr.
Mais d'ailleurs, tu chantes dans Instagram « Mon bouclier, c'est ma virilité. J'assume pleinement ma féminité. »
Ouais, bah c'est très paradoxal, mais ça me ressemble bien. Je suis quelqu'un qui, pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté, peut se positionner comme quelqu'un de très viril, parfois à outrance. Quand je regarde, par exemple, des freestyles ou des morceaux que j'ai faits à une période de ma vie, c'est des choses que j'assume pleinement. On doit tous passer par des étapes pour évoluer. Mais je me revois et je me dis, waouh, tu voulais vraiment faire le bonhomme, en fait. J'arrivais dans Rentre dans le cercle ou sur des planètes rap. Je voulais crier plus fort que les rappeurs. Je voulais m'imposer comme eux. En fait, j'étais dans un mimétisme, enfin qui était spontané, viscéral et authentique, mais qui, avec le recul, ne représentait pas l'intégralité de ma personnalité. Et c'est pour ça que je dis j'assume pleinement ma féminité, c'est que, par exemple, dans une relation intime ou amoureuse, j'estime en tout cas avoir évolué vis-à-vis de ma féminité, la manière dont je l'assume. Et c'est pas forcément quelque chose qui transpire dans le rap. Là, j'ai eu besoin, en tout cas ces derniers temps, de me réaligner avec ça et de nouveau de rééquilibrer la balance. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'étais féminine que forcément j'allais, pas minimiser, mais dévaloriser en tout cas vis-à-vis de mon talent ou de mes capacités. Il y a un moment où je pensais que la féminité allait être un frein au fait que les gens puissent voir, enfin me voir tel que je suis avec mon talent, mes failles, ma personnalité, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, ça fait pleinement partie en fait de ma vie et c'est quelque chose que j'essaye d'assumer un peu plus qu'avant. Ouais.
Et il y a déjà quelques années, tu as sorti plusieurs titres qui mettaient en avant, en tout cas, l'affirmation de la féminité face, on va dire, à un certain poids masculin, avec notamment deux morceaux, Si j'étais un homme et Balance ton porc. Et évidemment, tout le monde t'a considéré comme la rappeuse féministe. On t'a, on peut dire, étiquetée féministe aussi. Comment tu l'as vécu et aujourd'hui, où ça en est?
C'est quelque chose que, dans l'immédiat, enfin dans l'instant, j'ai pas forcément mal vécu parce que c'était des messages que j'avais besoin de transmettre. Si j'étais un homme, ça reste un titre que j'avais fait assez naturellement. J'avais cet environnement masculin aussi et que il y avait vraiment un monde, en fait, en ce que je voyais comme comportement dans la rue. Et il y avait un monde par rapport au comportement, justement, de mes proches, des hommes qui m'entouraient. Donc, moi, mon but, c'était vraiment de transmettre ce message de voilà la réalité du point de vue d'une femme. Voilà, en tout cas, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre si c'est quelque chose qui vous paraît inconnu ou si vous n'êtes pas forcément remis en question sur certains comportements qui peuvent être mal interprétés ou mal reçus. Balance ton porc, c'était vraiment en réponse justement à tous ces scandales qui ont suivi les mouvements MeToo, Balance ton porc. Mais c'est vrai que Balance ton porc, moi, c'était vraiment une réaction à chaud un peu. Par exemple, la spontanéité, la rapidité de la création de ce titre prouvait son authenticité, mais musicalement, c'est ce qui s'éloigne le plus de ce que j'aime faire en réalité. Finalement, je sais que ça a parlé à des femmes, même à des hommes, et j'ai eu énormément de retours tellement positifs par rapport à ça, notamment de femmes qui m'ont dit « grâce à tes mots, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses » ou « ça m'a donné plus de courage ». Donc ça, c'était vraiment une reconnaissance qui était presque inattendue en fait pour moi. Mais par contre, il y avait quand même cette frustration par la suite du traitement ciblé vraiment sur ces titres qui du coup pour moi dévalorisait le reste de ma proposition artistique. C'est vrai que je peux pas me plaindre du tout d'avoir eu la chance d'être mise en lumière pour des propos qui méritaient d'être posés sur la table. Par contre, ce qui me frustrait, c'est que on me réduise uniquement à ça. En réalité, ma démarche artistique, elle est beaucoup plus égocentrique que ça.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je sais pas si c'est mal ou si c'est bien, c'est juste la réalité en fait. Et j'avais l'impression du coup d'être une tendance passagère parce que je me rends compte avec tout ce qui se passe que voilà, il y a énormément de combats qui sont menés, qui sont mis en avant par certains médias et qui vont être assimilés rapidement justement à des étiquettes qui sont à des échelles différentes. Mais c'est vrai que moi, ça m'a rapproché presque des féministes très très engagées. Et c'est pas ce qui me représente. De nouveau, comme je le disais, moi, mes combats, mon féminisme, ils sont de l'ordre utopique parce que c'est simplement l'envie de ne plus se poser de questions, en fait, par rapport à l'égalité de manière générale. Et c'est vrai que d'être assimilé parfois à la division, c'est des retours que j'ai eus, en fait, d'hommes qui me disaient « je me sens exclu par ton discours ou par ce que tu représentes dans les médias, alors qu'à la base, j'aime ta musique, etc. » Et ça, c'est des choses qui m'ont fait remettre en question. Parce que moi, ma musique, je l'ai toujours faite dans le but de me soigner, puis de rassembler, et non pas de diviser. Et voilà, de manière générale, ça a été en tout cas beaucoup de réflexion de mon côté, mais c'était pas non plus dramatique. Hein. Je me suis pas lamentée sur mon sort en me disant « Ah, je suis étiquetée rappeuse féministe ». Je pense qu'on a toujours de quoi rebondir. Ça m'a fait tirer beaucoup de leçons. Et voilà, ça m'a inspirée pour la suite aussi. Hein.
Et on est toutes féministes à notre manière.
Ouais.
Comme l'était Françoise Sagan. C'est celle dont tu as choisi de lire quelques mots.
En fait, ce qui m'a parlé dans cette phrase de Françoise Sagan, c'est la philosophie de vie un peu. Moi, c'est ce que j'ai envie d'appliquer dans mon quotidien. Et Françoise Sagan dit « Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. » Et c'est quelque chose... qui me touche particulièrement parce que la notion du temps, elle fait partie, moi, de mes peurs, de ne pas vivre assez intensément l'instant, le présent, de parfois être trop focalisé sur le passé ou sur les inquiétudes de l'avenir. Finalement, je me rends compte que la vie, c'est tout ça, en fait. C'est essayer de vivre l'instant à sa juste valeur, mais accepter aussi que parfois, c'est en perdant son temps qu'on tire des leçons, c'est en réfléchissant au passé qu'on arrive à mieux percevoir l'avenir et c'est en s'inquiétant pour l'avenir qu'on en revient à chérir le présent. Et vivre à contre-temps, ça a toujours été viscéral pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette petite envie de vivre un peu dans l'opposition de ce qu'on attendait de moi, d'être un peu toujours en contradiction. Et c'est ce qui fait tout le paradoxe de ma personnalité aussi, hein, mais ouais, c'est quelque chose en tout cas qui me parle énormément parce que le temps qui passe, c'est pas quelque chose qui est simple à accepter. Là, j'arrive à l'âge de 26 ans, j'ai encore toute la vie devant moi et pourtant j'ai l'impression que c'est passé tellement vite. J'ai l'impression de m'éloigner de plus en plus de ma naïveté, de mon innocence, de mon enfance. Je constate que des souvenirs s'effacent, donc ça crée forcément de la nostalgie. Ça m'inspire beaucoup pour ma musique aussi. J'ai l'impression que le moment présent, surtout en cette période actuelle, on peut pas le chérir et le vivre à sa juste valeur parce qu'on est privé de tout ce qui nous fait vibrer. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est les liens humains, c'est l'échange, c'est le partage, aller boire un café, écouter de la musique en groupe. Là, aujourd'hui, pour moi, la notion de temps, elle est assez douloureuse parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, en fait, à attendre de pouvoir revivre le présent. Et je pense que ça fait partie de mes plus grosses cogites, en tout cas, dans mon quotidien. Aujourd'hui, je vois des gens qui luttent tous les jours pour essayer de ne pas sombrer. Je vois des gens qui arrivent à développer un maximum leur créativité et à justement user de ce qui se passe actuellement pour développer plein de choses. J'en vois d'autres qui sombrent cruellement et d'autres voilà qui sont dans une période de latence. Mais je pense que tout le monde en ressortira, je l'espère, plus fort pour ceux qui arriveront à passer au-dessus. Et j'espère qu'en tout cas, par la suite, ça nous promettra des jours meilleurs. Et ce que je retiens, c'est que même si on est éloigné physiquement, j'ai l'impression que on est quand même un peu plus unis. Parce qu'il y a quelque chose qui est sûr dans cette période, c'est qu'on est en train de traverser tous la même chose et du coup, on passe par les mêmes émotions, etc. Donc, on se comprend peut-être un peu plus. Et pourtant, Dieu sait que là, ces derniers mois, il y a eu énormément de divisions par rapport à leur combat. Donc, il y a toujours du bien dans les périodes sombres, de toute façon. Et je pense qu'elles sont nécessaires à traverser pour briller d'autant plus.
C'est vrai que la division dans les combats, C'est quelque chose qui revient dans tes chansons, quand tu dis que là, on te dit que t'es trop blanche pour rapper. Là, bah, en fait, que t'es pas assez blanche et tu subis le racisme. Et c'est quelque chose, finalement, que t'as vécu, toi, dès ton plus jeune âge.
Je pourrais pas dire que j'ai vécu du racisme. Finalement, moi, les gens, ils ont toujours eu ce point d'interrogation, en fait, de « mais tu viens d'où ?» Tu viens d'où ?» Et moi, j'ai toujours joué un peu là-dessus, dans le sens où je suis tellement fière de mes origines. Enfin, mon père étant malgache, moi, ma culture, mon métissage, c'est ma plus grande force. C'est ce qui, en tout cas, nourrit mon ouverture d'esprit et mon envie sans cesse de découvrir et de voir au-delà de cases de nouveau. Mais par contre, oui, je constate en tout cas autour de moi que les gens sont de plus en plus divisés par rapport à pas mal de choses. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression d'être un peu en marge de tout ça parce que j'ai l'impression d'appartenir finalement à aucune case, aucune communauté. Donc moi, j'ai senti une division un peu là-dedans. Et en même temps, j'ai vu les gens se rassembler aussi. On a vu énormément de rassemblements où les gens étaient unis. De nouveau, là, ce qu'on vit aussi, ben, on est unis. Et moi, c'est ça, en fait, que je tire comme conclusion. C'est que y a rien qui me nourrit plus que de voir les gens se trouver des points communs, vouloir évoluer ensemble, se soutenir, s'élever ensemble. L'union fait la force. Et pour moi, la musique est au cœur du rassemblement des gens, quoi. Parce que je pense que c'est quelque chose de commun à tout le monde. Peu importe la culture, peu importe les origines, peu importe l'âge, peu importe d'où on vient, qui on est et qu'est-ce qu'on fait de notre vie. J'ai l'impression que la majorité des gens, en tout cas, sont unis par des choses comme la musique. C'est ce que j'aime le plus, en fait, de voir les gens ensemble et pas se tirer dans les pattes.
Notamment ta musique qui les unit. Et merci beaucoup, Sheila, pour ce moment ensemble.
Merci, c'était un plaisir.
C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.